Bonjour et bienvenue à cette balado-diffusion Dialogue Fidelity, une fenêtre sur le monde de l'investissement pour vous aider à rester à l'avant-garde, offerte par Fidelity Investments Canada. Dans la balado-diffusion d'aujourd'hui, nous retrouvons le gestionnaire de portefeuille Hugo Lavallée, qui vous présente sa séance enregistrée lors d'un récent événement pour les conseillers qui s'est tenu à Québec. Monsieur Lavallée est reconnu pour son style de placement à contre-courant, dont il discutera aujourd'hui avec Charles Dany, vice-président régional des ventes au Québec et dans l'Est du Canada. M. Lavallée gère le fonds Fidelity Potentiel Canada, le fonds Fidelity Canada Plus et le fonds Fidelity Leadership Climatique pour le compte des investisseurs canadiens. Il applique son approche de placement anticonformiste à tous ses fonds et expliquera aujourd'hui les différences entre ces trois mandats. Il discutera également des occasions de placement qu'il trouve actuellement et répondra aux questions du public. La balado-diffusion d'aujourd'hui a été enregistrée le 3 novembre 2022, et comme il s'agissait d'un événement en direct, quelques diapositives ont été présentées au public. Nous espérons que cet épisode vous plaira. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.
Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidelity Investments Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement, et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, et Fidelity n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions.
Je parle tout le temps que je suis un investisseur contrarié. J'achète des titres délaissés, des titres boudés, des situations impopulaires. Puis nous voilà dans une situation comme ça. Personne n'est de bonne humeur, sauf Daniel. Tout le monde a la mine longue. On est à notre deuxième récession en 3 ans. Marché boursier quand même assez baissier, assez négatif, surtout en Europe, aux États-Unis. Que ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est de donner un peu plus de contexte, les outils que moi j'utilise dans des moments comme celui-ci, pour nous aider à la rehausse plus tard. Historiquement, j'ai bien fait en sortant d'une récession. J'aimerais vraiment pas manquer mon coup cette fois-ci en sortant de la récession, mais 2003 quand j'étais analyste, 2009 comme gestionnaire, 2020 comme gestionnaire, ont été des bonnes années pour mes mandats, que j'allais vous présenter un peu aujourd'hui, ce que j'utilise. Donc, 3 niveaux. On va commencer à le niveau le plus simple, hein, le niveau un petit peu plus débutant. Parfait. Des choses qu'ils nous enseignent à l'école. Co-bénéfice, P/E ratio, flux de trésorerie, rendement élevé. Ça fonctionne des fois. Des fois, j'utilise ça. Donner 2 exemples rapides. Dollarama pendant la COVID. Constamment des petits problèmes au trimestre. Ah, le Québec, on ferme les centres d'achat. Ben, il y a 50 $ à moins au Québec dans les centres d'achat, donc ça crée une pression sur ces résultats-là. Ah, on décide qu'on n'a plus pu magasiner le dimanche. En Ontario, on réduit le magasin à seulement des biens essentiels, donc 60 % du magasin. Donc, chaque trimestre, c'était juste un peu plate, un peu plus difficile. Le cours bénéfice baisse. Dollarama, c'est jamais le stock le moins cher parce qu'ils ont des rendements sur le capital super élevés. Mais pendant la COVID, le titre est 19 fois les profits. Donc, il y avait 2 certitudes. Éventuellement, tout ce qu'on fait pour les restrictions COVID allait s'en aller. Et on savait aussi qu'éventuellement, il va y avoir une nouvelle structure de prix. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. Les choses vont mieux. Le cours bénéfice a augmenté. Gagne des parts de marché, même au niveau de l'épicerie. Le cours bénéfice est rendu 28 fois les profits. Alors, on a eu une réaugmentation du cours bénéfice. Couche-tard, pendant la saga Carrefour, que vous vous souvenez peut-être, ça sort dans les journaux que Couche-Tard considère acheter Carrefour. Le titre tombe à 12-13 fois les profits. Dans notre business, on est toujours dans l'incertitude, hein, approximative. La certitude dans notre business, c'est illégal. Fait que, bon, Couche-Tard va l'acheter Carrefour, pourquoi? On ne sait pas exactement. Le titre n'arrête pas de baisser, mais ça peut créer des opportunités. Hein, si on a travaillé, on connaît bien l'entreprise, de dire, hey, le titre est 13 fois les profits, je pense pas qu'ils ont décidé de faire un mauvais deal. Finalement, la transaction s'est jamais passée. Mais vous savez, là, hier, je pense que Couche-Tard a maintenant des nouveaux records. le co-bénéfice augmenté. Donc, des fois, j'utilise ça. C'est des choses qu'ils utilisent. C'est des outils que j'utilise, des fois, pour être contrarien. Mais c'est aussi ce qu'on enseigne à l'école. C'est que là, on va parler de d'autres choses qu'ils enseignent un peu moins à l'école. Quand une compagnie ne fait pas d'argent, est-ce que la compagnie ne vaut rien? Si la compagnie ne va jamais faire d'argent, probablement qu'elle vaut rien ou très peu. Mais des fois, il y a des moments où les compagnies font peu d'argent. Et ça, c'est toutes des multiples que j'utilise. Core, liquidité nette, price to net cash. Donc, il y a des compagnies en ce moment qui ont levé du capital en 2021. Ils perdent de l'argent, mais les bilans sont surcapitalisés. Price to book, cours à la valeur comptable, que j'utilise beaucoup quand on parle de matériaux de base. Une compagnie Cuivre, par exemple. Les trois autres, c'est plus relié souvent aux entreprises de logiciels. EV to sales, valeur d'entreprise aux ventes. EV to gross profit, la valeur de l'entreprise par rapport aux marges brutes. Puis EV to recurring revenue, la valeur de l'entreprise par rapport aux revenus récurrents. Le quatrième est intéressant, valeur de l'entreprise par rapport au profit brut. Quand tu es rendu à 2-3 fois ton profit brut, une compagnie peut arriver en dessous puis enlever la structure de coûts. Comme on sait, par exemple, que d'être public pour une petite entreprise, c'est 1,5% à 2% des revenus en termes de coûts. Fait que si tu te reprivatises ou tu te fais absorber par une plus grosse compagnie, tout de suite, les marges augmentent de 2%. Il y a des opportunités comme ça. Puis en ce moment, ça, c'est vraiment quelque chose que je focus beaucoup. Ce matin, j'étais avec mon analyste tech. Bien, on se parlait sur Teams, là, Max Adelson. Puis on parle. Lui, il m'écrivait « Ah, there's really silly valuations out there ». Puis on parlait justement de ces outils-là. Et qu'il faut juste être patient. Ce matin, j'ai un titre, je peux pas le nommer, là, mais j'ai un titre qui était à 2 fois le cash sur le bilan, peut-être 1,5 fois les profits bruts. Puis je me suis fait demander aujourd'hui de le passer à 14% d'intérêt parce que quelqu'un veut le shorter, faire une vente à découvert. Fait que il y a des. Tu sais, le sentiment est extrêmement négatif. Il y a des multiples qui sont très faibles. Historiquement, une des façons que tu t'en sors, c'est qu'éventuellement, les dirigeants ou le board, le conseil d'administration sont un peu tannés de perdre. Hein? Ils sont tannés de se faire. Des fois, il faut que tu travailles plus fort. Tu rentres sur un conseil, tu n'as pas nécessairement travaillé beaucoup. Là, tu es pogné dans un paquet de meetings, tous les investisseurs sont fâchés. Des fois, il y a souvent un changement de management, hein, de PDG. Il y a des transactions. Les compagnies se mettent à vendre. Ça fait partie de mon style de gestion d'avoir des compagnies qui se font acheter des fois. J'en ai eu 2 transactions cet été. Puis je m'attendrais qu'il y ait des évaluations qui sont assez faibles, qu'éventuellement, il va y avoir d'autres transactions dans les portefeuilles. Il y a des compagnies qui vont se faire acheter. C'est des petites victoires à chaque fois, mais ces petites victoires-là, sur un 3 ans, il faut quand même une bonne différence. Le dernier, peut-être le niveau le plus avancé, le boss level, quelque chose qui est un peu spécifique à moi. Comment qu'on évalue une compagnie qui ça va vraiment mal en ce moment, mais qui ont déjà fait beaucoup de profits par le passé, mais que là, qu'il n'y a plus de profits, ou très peu de profits, donc ils sont comme à 300 fois les profits. Ça vient directement tomber dans mon style, qui est assez différent de valeur, puis croissance ou momentum. Comme Chipotle Mexican Grill, okay, quand la compagnie, c'est toujours plus facile d'en parler par après, là, mais dans le moment, c'est difficile. Ah, on empoisonne nos clients, les ventes baissent de 15 à 20 les profits sont en baisse de 90%, le titre est 300 fois les profits, le titre a baissé du 2/3. Comment qu'on évalue une entreprise comme ça? Five Below, qui est un teen and tween store aux États-Unis, High Return on Invested Capital Store, la compagnie, durant le COVID, ferme tous les magasins. Donc, perd 96% de leurs revenus. Comment qu'on évalue une situation comme ça? Fait que moi, ce que je fais souvent, puis en fait, là, il commence à en avoir beaucoup qui tombent là-dedans, tout ce qui était COVID winners, des compagnies de médias sociaux, des compagnies qui vendent du discrétionnaire, des compagnies européennes. Il y en a beaucoup qui commencent à tomber là-dedans au niveau européen. T'as un titre qui a baissé de 80%, qui a baissé de 65%. Les profits sont sous pression. Beaucoup sous pression. Pour moi, ça fait jamais aucun sens. Je le dis toujours à l'analyste, arrête de me parler des profits de 2023, là. Comme ça va mal. C'est pour ça que le titre n'arrête pas de baisser. What can we anchor on? Qu'est-ce qu'on peut s'asseoir, trouver quelque chose qui peut nous donner un peu une idée du futur? Puis une bonne façon, des fois, c'est de commencer, c'était quoi les profits au sommet la dernière fois? Puis il y a des fois, des compagnies ne vont pas retourner au profit de la dernière fois. Mais souvent, c'est une entreprise qui a high return on invested capital, puis encore de la chance, il y a des grands rendements, puis encore de la chance de développer son modèle d'affaires. La compagnie va retourner à ces profits-là. Des fois, même les compagnies n'étaient même pas optimisées quand ils étaient à ces profits-là. Puis des fois, they're founder-led, fait que les marges de profit avaient encore de l'expansion, même quand ils faisaient des niveaux records. Puis tu peux arriver à des situations où est-ce que... Moi, là, je donne vraiment la sauce magique, là, mais moi, je regarde 10 à 15 fois les profits du dernier sommet. Puis ça, c'est comme un peu mon strike zone, là, ma zone pour swinguer, là. Ça, c'est ce que j'utilise. Puis en ce moment, comme je disais, en Europe, les compagnies qui ont bénéficié de la pandémie, il y a plein de choses qui sont en train de se ramasser dans ce silo-là. Puis c'est assez spécifique à ce que moi, je fais.
Là, je t'écoute parler, t'as l'air, est-ce que tu trouves ça le fun de ce temps-ci? Est-ce que ton style de gestion est approprié pour ce genre de marché-là?
Non, c'est pas le fun, là.
Mais t'as l'air de bonne humeur.
Je pense que... Mais premièrement, c'est ceux qui détiennent les portefeuilles, ça n'a pas été ma meilleure année. J'ai été un peu en retard à reconnaître qu'on allait être en récession. J'ai plus réalisé ça au mois de juin. Fait que, tu sais, I was leaning into risk too early in the year, dans le sens que les titres baissaient, puis j'étais comme, OK, cool, j'en rachète. Puis on a passé, j'utilisais un peu plus le playbook 2011. Là, tu sais, 2011, si vous vous souvenez, on parlait d'un double dip. Puis ce qu'a payé les gars comme Steve McMillan, ils ont bien fait à juste faire du stock picking. On n'a jamais eu la deuxième récession. L'Europe a été difficile, mais en Amérique, on s'en est sorti. Puis, il y a eu beaucoup d'argent à faire. Moi, j'utilisais un petit... Moi, j'avais pas eu la meilleure année 2011. Je suis comme, là, cette fois-ci, je vais faire ça différent. Puis, en place, on a passé de late cycle tout de suite en récession. Ou sur le bord de la récession, là, surtout maintenant en Europe. Fait que... Mais dans ce contexte-là, je pense que l'expérience aide. Tu sais, ça fait 20 ans que je fais ça. Fait que tu sais un peu maintenant à quoi t'attendre. T'es un petit peu plus confiant, t'as vu des situations, t'sais, tout, c'est jamais pareil, mais ça rime un peu, fait que, t'sais, je pense, c'est pour ça que je vais faire la présentation que j'ai faite aujourd'hui, juste expliquer un peu, j'espère que vous l'avez aimé, mais j'expliquais un peu ce que moi je fais mon à chaque jour, là, t'sais, c'est exactement que c'est ça que je fais en ce moment, t'sais, j'ai donné l'exemple avec Max, on parle aujourd'hui de EV to gross profit, price to net cash, des compagnies tech. Mardi, j'étais avec un analyste européen, 45 minutes sur Zoom. On a passé à travers une compagnie dans le modèle, une compagnie qui je ne peux pas la nommer, ils rapportent la semaine prochaine, mais qui a baissé beaucoup, ça va mal, ils viennent de perdre une grosse partie de leurs revenus. Fait que je suis plus, tu sais, sur l'offensive, puis j'ai l'impression que les choses viennent vers moi tranquillement. Puis, comme j'ai dit plus tôt, je ne veux pas manquer mon coup de l'autre côté, mais historiquement, quand on va sortir de ce moment-là, qui est comme juste poche, tu sais, il va y avoir un rebond éventuellement, puis je sais pas si c'est dans une semaine ou dans deux ans, mais ces années-là, historiquement, je fais bien, fait que j'essaie de tranquillement me préparer pour ça.
Fait que ton playbook arrête pas d'évoluer, là. Tu regardes, tu parlais de playbook 2011, mais ta nouvelle manière, c'est tout le temps en évolution, je comprends.
Ouais, on est continuous improvement business, là. Moi, je crois beaucoup à ça, là, dans le sens que, tu sais, moi, j'aime beaucoup le football américain, là. Tu sais, tu gagnes pas un Super Bowl aujourd'hui comme tu joues comme les Chicago Bears de 1985, là. Tu sais, fait que, tu sais, la business est pareil, mais elle change tout le temps un peu. Puis, c'est pour ça qu'intellectuellement, c'est intéressant. Puis, c'est juste de continuer à développer des outils, puis rester ouvert d'esprit. Puis, we're in the continuous improvement business. Tu sais, puis, si tu stalles, si t'arrêtes de grimper, t'es en train de descendre la montagne. Tu sais, fait que moi c'est comme ça que je le vois. Puis it's a grinding business aussi. Tu sais, faut que t'aimes le grind. Là. Faut que t'aimes. C'est que ça n'arrête pas depuis la COVID, là, mais comme tout le temps, regarder des nouvelles situations, regarder des nouvelles business, regarder des titres qui baissent. Puis en ce moment, il y en a beaucoup, naturellement. Fait que on est occupé. But it's good busy. Des fois, c'est frustrant, mais tu sais, on est en train de passer Q3 earnings season. On est en plein dedans. Puis, on commence à avoir finalement, on en parlait là, depuis 6-9 mois, mais on commence à avoir le reset des estimés de profit. Alors, les compagnies annoncent que les marges deviennent sous pression, les revenus sont un peu à la baisse, les dépenses, on a continué à investir, les marges se font ramasser un peu. Ça, c'est en plein dans mes cordes. Ça fait partie du cleansing process, c'est poche. C'est surtout poche dans les tiens la journée qui annonce ça dans les portefeuilles. Mais ça fait partie un peu de nous permettre de rebondir de l'autre côté. Parce qu'éventuellement, le contraire arrive. On a coupé les coûts et les revenus se mettent à se réaccélérer. Fait qu'on est juste dans ce moment-là. Puis c'est beaucoup aussi d'ajuster les positions en portefeuille. Parce qu'une position d'un pour cent, c'est pas la même chose qu'une position de 5 %. Fait que tu peux avoir des compagnies qui tranquillement, que t'aimes. Fait que tu dis, OK, je me garde beaucoup de marge de manœuvre si le titre m'a baissé. Moi, ce que je focus beaucoup en ce moment, c'est sur quel prix. Je push beaucoup les analystes. À quel prix est-ce que tu achèterais
tel titre?
Donne-moi un prix, là, qu'on va se fermer les yeux. Puis moi, je pense que c'est une de mes forces. Là. On va se fermer les yeux, on va se bloquer les oreilles. Parce qu'il y a tout le temps 100 raisons pourquoi tu ne l'achèteras pas à ce prix-là. Bien, souvent, les analystes, « Ah, je l'aimerais, le titre à 120 $ Ah, moi, je l'aimerais à 100. » Puis là, ils arrivent à 100, puis c'est comme, « Ah, leur genou se met à fléchir. » Ah, mais il s'est rendu à 100, pas parce que l'histoire sonne mieux qu'à 120, tu sais. Fait que de dire, moi, je focus beaucoup sur quel prix est-ce qu'on va doubler notre capital au cours des 5 prochaines années. Parce que si on double notre capital au cours des 5 prochaines années, on va faire 15 % de rendement par année, on va battre le marché puis on va battre la compétition.
C'est drôle, c'est à peu près les chiffres que tu fais.
Pour l'instant, oui.
En passant, si vous avez du potentiel Canada, vendez-le pas parce que vous ne pourrez pas le racheter. Le fonds est fermé. C'est assez rare, mais étant donné que Hugo est payé sur les performances par rapport à ses indices, bien, on ferme des fonds chez Fidelity pour pas que Hugo soit désavantagé. Tu sais, parce que tu avais quoi? Tu as 2 milliards là-dedans?
Potentiel?
Oui.
Ah, j'ai frappé 3,7. Imagine. J'étais à 3,4, 3,5.
Fermé. Sold out. C'est rare dans notre business.
Sold out. Je sais pas si c'est sold out, mais il est fermé. En tout cas, ça, c'est ça.
Bon, ben, si on parle de Canada Plus un peu, puis je vais t'amener, tu as parlé d'une compagnie européenne. La géopolitique, c'est compliqué. Comment est-ce que ça vient t'influencer de ce temps-ci? Où est-ce que ça t'influence?
Ah, c'est sûr que c'est poche ce qui se passe dans le monde. T'sais, j'ai fait du marketing récemment, puis il y a beaucoup de ces questions des clients. Là. Est-ce que tu penses que la géopolitique n'a jamais été aussi mauvaise? Puis, je pense que c'est important de se rappeler sur une carrière de 20 ans, il y en a des moments vraiment rock and roll poche. Là. Moi, j'étais pas là, j'étais pas chez Fidelity le 11 septembre. Là. Mais tu sais, de travailler dans une firme américaine, dans une tour, c'était comme ordinaire. Là. Puis moi, j'ai fait mes entrevues 3 semaines après, puis c'était comme, il y a juste Fidelity qui est venu faire des entrevues à McGill parce que, tu sais, les vols étaient cancellés, fait que Goldman venait pas à Montréal. Fait que c'était genre Daniel puis Sean, qui Sean n'est plus avec nous maintenant, là, mais il est encore en vie, là, mais il est plus chez Fidelity. Mais, tu sais, ils ont pris l'auto, ils sont venus faire des entrevues. Tu sais, il y avait tout ce contexte-là qui était quand même quelque chose. C'était américain. Tu sais, en novembre 2008, quand que TARP a été laissé de côté par le Congrès américain, ils se demandaient, va-t-il avoir vraiment un monde financier, est-ce que ça va survivre, le système bancaire. Moi, je me souviens encore de la journée que ma femme était allée choisir, était allée chercher les enfants à l'école un jeudi avant, la veille que les écoles ferment pendant la COVID. Tu sais, c'est quand même un moment spécial. Là. On va-tu tous mourir? On va boire ce soir, puis je ne sortirai pas mes bouteilles les moins chères. fait que tout ce côté-là. Il y a toujours des moments comme ça. Moi, je pense que ce qui m'aide, c'est que j'essaie de différencier le côté humain, père de 3 enfants, du côté travail. Parce que quand à un moment donné, ça va tellement mal, à un moment donné, il faut que tu dises, OK, tu sais, comme en 2008-2009, si le système financier n'existera plus, ben, je suis aussi bien prendre du risque maintenant. De toute façon, je suis pas ma job de toute façon. Fait que, si on va tout frire dans une guerre nucléaire, on devrait pas être ici, puis on devrait tout être en train de vivre notre vie. Fait que, il y a toujours cet aspect-là. À un moment donné, il faut que tu dises, OK, enough is enough. Les évaluations sont faibles. Puis, on commence tranquillement à s'approcher de ça. Ça peut toujours aller pire. Mais à un moment donné, you have to anchor to something. Tu sais, il faut que tu arrives et tu dises, OK, à ce prix-là, je vais tellement doubler mon argent sur plein de possibilités. Puis, des fois, ça prend juste un peu de positif. Fait que, on s'en va tranquillement vers ça. L'Europe est vraiment là. Historiquement, j'ai pas eu beaucoup de sites européens. De plus en plus, je commence à regarder des titres européens. Ça va vraiment mal là-bas, je pense que tout le monde le sait. La récession, elle est sévère. L'hiver va être difficile dans tous les pays, là, mais dans certains pays comme l'Allemagne, ça a créé plein d'incertitudes. Je pense que c'est le temps de regarder ça un peu de plus près et de travailler là-dessus.
Ils ont l'air d'avoir un gros problème d'inflation aussi dans certaines de ces géographies-là, comme en Amérique du Nord. On jasait un petit peu avant d'embarquer sur le stage sur ta philosophie regardant l'inflation, puis qu'est-ce que tu penses que c'était pour avoir comme impact, pas à court terme, mais à moyen terme, à cause des salaires, puis tu sais, ouais.
Bien, je sais que David Wolf a présenté ce matin, là, fait que j'ai quand même fait un bac en économie, là, Daniel, mais la seule chose que je vais dire, c'est, puis moi, c'est ça qui m'a rendu un peu plus négatif sur le Fed Path, c'est vu qu'on l'a échappé, puis on s'est même imprimé de l'inflation de 8-9 %, tout le monde a vu ces chiffres-là. Nous, comme employés, on a vu ces chiffres-là. Les syndicats ont vu ces chiffres-là. Puis moi, quand je couvrais l'or, on disait toujours « wage growth is inflation ». Puis ce qui va se passer, c'est que là, ton employeur va te suggérer 2 % d'augmentation. Puis là, tu vas dire « ben, ça, je veux pas 2, ça m'en prend 8 ». Puis on commence à le voir là, en Europe pour certains conditions salariales, syndicales. Puis là, on va faire 5. Mais ce 5 %-là, on a besoin comme d'une autre année. Ça va se ramasser dans tout ce qui est… Soit que ça va affecter les marges de profit des compagnies, puis pour certaines entreprises, ça va le faire. Ou ça va juste créer de l'inflation dans tout ce qui est service. Fait que là, l'inflation dans les biens est en plein de diminuer à mesure que tout ce qui est supply chain est en train de normaliser. On entend plus en plus de nos entreprises. La demande baisse un peu, puis les chaînes d'approvisionnement s'améliorent. Fait que tout ce qui est inflation bien est en train de s'améliorer. Mais l'inflation service, je pense que malheureusement, ça va rester collant un peu. Fait qu'on a on a besoin de temps de cet événement-là. T'sais, c'est plus une récession normale, garden variety. We need time. T'sais, l'augmentation des taux, ça prend du temps à frapper l'économie. On va avoir une meilleure idée l'été prochain de comment ça se passe. En plus, de l'inflation au niveau des salaires. Fait qu'on a juste besoin un peu plus de temps pour cleanser ce moment-là.
Il y a quelqu'un qui n'a pas l'air d'être d'accord avec ton point de vue sur « we need an anchor », mais on propose que pourquoi le anchor ne serait pas les bénéfices de 2023 où on n'utiliserait pas ça. C'est parce que toi, tu t'en fous un peu.
Ça dépend des situations. C'est une bonne question, mais ça dépend des situations, right? Fait que, tu sais, on peut ancrer l'évaluation de Loblaw au métro sur 2023, right? Ça fait du sens, right? Ce que moi, je voulais dire plutôt avec mon style, puis vous pouvez ancrer, que ce soit compagnie d'énergie, ou tu sais, il y a des choses que vous pouvez ancrer ses profits en ce moment. Mais moi, je parle pas du marché. Tu sais, je dis pas S&P, puis moi, je parle jamais, tu sais, je peux remarquer, mais je parle jamais de ça. Je parle toujours de compagnies individuelles. It's not a stock market, it's a market of stocks. Okay, puis il y a une grosse différence entre les deux. Quand moi, je dis, c'est qu'une compagnie qui a vraiment de la difficulté en ce moment, que les estimés de profit sont en train de se faire couper, si vous regardez les profits de 2023, vous n'allez jamais acheter le titre. Vous n'allez jamais acheter le titre au creux. Parce que le titre va avoir de plus en plus cher, plus il va baisser. C'est ça que je veux dire. Fait qu'à ce niveau-là, c'est quand j'ai... C'est un de mes bons titres de 2020, c'était Five Below, quand ils ont fermé les magasins. 96 % du revenu qui disparaît. Fait que là, c'est comme, OK, mais non, d'une façon, ça n'a jamais été aussi facile à analyser. Tu mets zéro en haut, tu regardes toutes les dépenses, il reste combien de cash, how long do they have? Puis j'avais demandé à l'analyste en avril 2020, fais-moi ta meilleure estimée de profit 2022. Parce que le prochain trimestre, là, il va être terrible. Tout le monde le sait. C'est pas une surprise. Ça va être épouvantable. C'est quoi ta meilleure estimée de profit 2022? C'était 10 fois les profits. Pour une compagnie qui est historiquement étrangère, j'ai 30-40 fois les profits parce que le retour sur capital est élevé. Puis une fois que le moment a passé, les magasins ont rouvert. Non seulement les magasins ont rouvert, ils ont rouvert avec des ventes super positives. Le titre a multiplié par 4. C'est ça que je veux dire. C'est de regarder une situation individuelle. Parce que si tu es pris dans le moment, ces titres-là, tu les achèteras jamais. Fait que moi, je fais beaucoup pousser ma thèse. Je dis tout le temps aux analystes en interne, I'm always rolling 2-3 years forward. Parce que tout le monde regarde le court terme dans notre business. Tout le monde. Il y a tellement de hedge funds. Tout le monde est focusé sur aujourd'hui, le prochain trimestre. Que si tu regardes 18 mois, 24 mois, pour des hedge funds aussi bien regarder 100 ans en avant. Fait que ça te permet un peu d'avoir une vision un petit peu plus différente. Fait que j'espère que je l'ai un peu mieux expliqué, là. C'est une bonne question, mais c'est pas pour le marché, c'est vraiment pour des compagnies individuelles.
Ça, est-ce que ça te permet d'éliminer le bruit, le noise?
Oui, il cut through the noise. T'sais, faut que tu sois capable d'éliminer à un moment donné le bruit, là, de savoir que tu fais la bonne affaire. Il faut que tu sois capable de dire, OK, garder 10 fois les profits, je pense qu'ils vont survivre. What else we have to know? Tu sais, comme, là, t'as l'analyste qui te regarde, là, tu sais, c'est comme, ça vient un peu de l'expérience, là. Moi aussi, j'étais là, tu sais. Mais, je me souviens, Techcominco en 2015, avec Fort Hills, je me souvenais, mais vous vous souvenez, mais il continuait à investir dans Fort Hills. Ça faisait un trou dans le bilan. Le titre était 0.3 fois la valeur comptable. Mon analyste, il arrive. Ils ont 5 ans de liquidité. That's the thesis. It trades at 0.2 times book. Il va aller au moins au book. Des fois, il tranche à 3 fois le book. Plus, ils ont 5 ans de liquidité. That's it. There's nothing else we need to know. Puis finalement, le titre a multiplié par 10. Il est vendu bien trop tôt, là, mais tu sais, c'est un peu, ça fait penser un peu comment moi, je regarde le monde.
Est-ce que c'est possible, avant qu'on parle de leadership climatique puis des autres produits, que tu nous dresses un portrait de Canada Plus, fin octobre, début novembre 2022, les géographies, les marchés, grosso modo, tu sais, ça n'a pas ballpark, le nombre de stocks. Wow. Qu'est-ce que les gens achètent s'ils n'achètent demain?
Ben, Canada Plus, je pense aujourd'hui, écoute, je pense qu'il doit avoir environ entre 75 et 100 titres. Le fonds est peut-être 35-40% US. Mais là, le US, d'un côté, il y a des titres que je trouve intéressants, mais vu qu'on est des investisseurs canadiens, il y a la devise qui nous a aidés. Fait que là, je commence à… J'ai moins que 5% d'Europe, mais j'ai l'impression que je vais essayer de l'augmenter.
Okay.
Je dois être minimum 50% au Canada. Normalement, je dois être entre 50 et 55. Là, j'ai 5% de liquidité, ou un peu moins. Fait que je dois être proche de mon minimum canadien. Le Canada, je veux laisser ce moment-là passer pour le cyclique canadien. T'sais, je pense que la hausse de taux, ça fait 10 ans qu'on en parle. Là. Philippe Poulin n'arrête pas de me dire que je me répète, là, mais je pense que on est à un moment peut-être un petit peu plus critique pour le Canada. Donc, tout ce qui est très cyclique canadien, qu'on a bien fait en 2020, que ce soit Canadian Tire, Sleep Country, ça m'intéresse beaucoup moins en ce moment. Fait que moins de Canadiens, moins de cycliques canadiens. Il y a des compagnies en difficulté aux États-Unis qui m'intéressent. En même temps, la devise nous a aidés. Là, j'essaie de regarder est-ce que je pourrais faire un petit peu plus de titres européens.
Puis est-ce que c'est en relation avec, tu penses que la devise européenne est à un bon prix ou ça n'a pas rapport
à ce ça a un peu tout ce rapport avec la cyclicalité, la force du dollar US. Ça, tout est interrelié à ce niveau-là. Fait que, il va y avoir une journée qui va être le contraire de hier. T'sais, il y a une journée, hier, le DXY est à la hausse, toutes les autres devises sont que le dollar US sont à la baisse, toutes les titres baissent et éventuellement, il va y avoir le contraire de ça. T'sais, il va y avoir une journée où est-ce que le dollar US fléchit. Des titres cycliques européens vont bien faire, plus les devises canadiennes et européennes devraient reprendre du poids de la bête par rapport au dollar US.
Si je te pose la question suivante concernant le conflit Russie-Ukraine puis l'impact sur ta thèse de placement pour le leadership climatique, est-ce que ça a changé quelque chose?
Non, je pense que ça a juste un peu renforcé la thèse parce que ça nous permet de faire trois choses avec tout ce qui est les énergies renouvelables. Un, naturellement, ça permet la décarbonisation. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Mais les deux choses que la guerre a renforcées, c'est vraiment la sécurité énergétique. Pourquoi que l'Allemagne est si dans le trouble par rapport à la France? Mais la France, sont 80% nucléaire. Puis l'Allemagne fermait leur centrale nucléaire pour être dépendant de gaz russe. C'est au Québec, on a 95% hydroélectricité, 95-97%. Il n'y a pas une industrie lourde au Québec qui a peur de manquer d'énergie cet hiver. Comparé en Allemagne, qui est un bassin industriel, puis là, c'est même pas sûr, c'était bien mieux levé, c'est pas sûr être capable de produire cet hiver. Fait que pour moi, l'énergie, c'est juste une renouvelable, c'est juste une autre corde dans l'arc de sécurité énergétique. And it's to each its own. T'sais, chaque géographie est différente. La France, c'est du nucléaire. Le Danemark, c'est de l'éolien. Le Québec, c'est de l'hydro. Tu sais, agnostique, dans le sens que c'est à chaque pays de choisir ce qui fait son affaire. Mais le problème, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas assez de pays amoureux de la liberté qui produisent du pétrole. Il n'y a pas assez de Canada et des États-Unis dans le monde. Tu sais, souvent, le baril de pétrole, il est pris dans des pays poches qui marginalisent les femmes et les minorités. Puis là, on est à merci de ça. Tu sais, t'as l'OPEC, ça va mal, cool, on coupe la production d'un million de barils, tu sais. Puis, je pense que ce qui a changé par rapport à 50 ans, les années 70, c'est qu'il y a des solutions. Avant, il n'y en avait pas de solutions. Aujourd'hui, il y en a des solutions. Fait que ça, c'est point numéro 2, la sécurité énergétique. De l'autre côté aussi, c'est contrer les pressions inflationnistes de ça. Tu sais, je ne suis pas insensible à ça. Là. L'inflation, ça m'affecte au bout dans le travail. Puis, mais dans ma petite vie personnelle, là, les, les billes que je reçois à la maison, là, tu sais, si c'est un auto électrique, une fournaise électrique, un chauffe-eau électrique, tu sais, c'est M. Legault qui va décider que ça va augmenter de 3 % puis le prix du gaz est cher, mais on peut s'aider à être moins en plus se protéger de l'inflation, on peut avoir une sécurité énergétique, plus avoir une tasse de décarbonisation. Et que tout ça ensemble, je pense que la guerre, malheureusement, a mis le spotlight sur des alternatives, les énergies renouvelables. C'est une alternative.
Tu sais, est-ce que ça se retrouve dans tous tes portefeuilles, ce genre de thinking-là, ou est-ce que c'est surtout dans le leadership climatique?
Oui, bien là, il y a une bonne question, là, qui fait longtemps qu'il est là, puis j'aimerais ça la répondre. Faut me donner 2-3 minutes, là. Incorporez-vous des critères ESG dans tous vos mandats? C'est une bonne question, puis je vais juste différencier entre ESG fidélité puis leadership climatique, OK? Parce que c'est dans le même code postal, là, mais c'est pas en même maison. C'est que juste ESG chez fidélité, c'est important pour tous les mandats. Puis ça a le plus de pouvoir si on l'applique à tous nos mandats. C'est pas juste leadership climatique avec 500 millions de capital. Là. C'est comment aujourd'hui on a plus d'engagement avec les entreprises. On dédie du temps à parler aux entreprises, à essayer de mieux comprendre les chaînes d'approvisionnement, le diversity, toutes ces choses-là. Et je vois que comment qu'on vote maintenant, ça a un peu plus de mordant qu'avant, que vous l'avez 3-4 ans. Cool, on vous a parlé pendant une heure, on a discuté de choses. Un an après, vous avez fait aucun changement. OK, on va voter contre le directeur qui est en charge de...
On fait ça.
Je vois là, à l'interne, on commence à un petit peu plus de mordant. Mais ça a du mordant si on le fait pour tous nos portefeuilles. Moi, je n'aime pas appeler leadership climatique un fonds ESG. J'aime dire que c'est un fonds climatique. Hein. C'est spécialisé dans ce vertical-là. C'est même pas un fonds environnemental, c'est un fonds climatique, de décarbonisation. Fait que ça me permet vraiment de garder vraiment ce focus-là, qui est plus étroit, puis de faire un mandat qui fait du sens pour ce thème-là, au lieu d'essayer de tout faire. On essaie de tout faire avec tout le capital qu'on gère, fidélité pour nos clients.
Est-ce qu'il y a des secteurs qui retiennent plus ton attention de ce temps-ci, dans ce petit livre-là? Ou tu fais-tu plus de travail dans un certain...
Ben, une affaire que j'essaie de faire dans tous mes fonds, là, c'est que j'essaie de... Au lieu d'essayer... Je pense que c'est le bon environnement pour ça. Là, au lieu d'essayer de prédire de next big business là, qui perd 30 % marge de profit, ben, je pense que dans 3 ans, ils vont faire 30. Là. Beaucoup plus difficile en ce moment avec le coût du capital qui a augmenté. Ce que j'essaie de faire, puis j'ai plus d'industriels que probablement que j'ai jamais eu dans mes portefeuilles, essayer de trouver des entreprises que c'est déjà des bonnes entreprises, que le retour sur le capital est élevé, mais en plus, quand on parle de climat, de décarbonisation, qui vont avoir le vent dans le dos avec la thèse de décarbonisation. Si on prend, mettons, les producteurs automobiles, pas juste BMW contre Tesla, mais toute la chaîne d'approvisionnement, il y a des compagnies qui vont avoir des modèles d'affaires plus difficiles par rapport à d'autres. Les chemins de fer, je pense qu'ils font beaucoup de sens dans une thèse de décarbonisation parce que le trucking est devenu super populaire pendant la COVID parce que Canadian Tire disait ben, « ça prend mes chaises de patio hier, mais aujourd'hui, les chaises de patio, j'en ai trop, les chaînes d'approvisionnement sont en train de se normaliser. Bon, ben utiliser les chemins de fer, non seulement c'est moins cher, mais c'est aussi 70% moins d'émissions. Fait que, mettons, tu es Nike puis tu focuses sur les chaînes d'approvisionnement pour garder ton total carbon footprint, ben tu vas faire plus de chemin de fer que du trucking. Fait, tu sais, d'essayer de trouver des angles comme ça qui font du sens dans le fond, mais ça, je l'applique vraiment aux trois portefeuilles.
Qu'est-ce qu'on n'a pas jasé ou qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message aux conseillers?
Ben, j'espère que j'ai été clair. Là. Merci les gens de leur patience. Je pense que le potentiel, c'est pas si mal, là, mais c'est sûr que je préfère avoir une meilleure année. J'essaie vraiment de me positionner pour ce qui va s'en venir éventuellement. Je pense qu'historiquement, j'ai l'impression que les choses sont en train de venir dans mes cordes. Puis, honnêtement, ça fait du bien d'avoir les clients. Ils ont fait beaucoup d'événements. Puis, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Charles.
Sûrement.
Tu sais, on est-tu numéro 1 dans les ventes nettes cette année au Canada, fidélité? Puis, tu sais, on en parlait avec Dave Bushnell en Arizona. On est très choyé, je pense, que la confiance que les clients continuent à nous faire. Tu sais, c'est un marché très facile pour retirer son argent du marché. Là. Je pense que le travail qu'on a fait de fidélité pendant la COVID, moi, j'ai été le premier qui a parlé aux clients le lundi du lockdown. Là. J'avais un événement. Là, c'est fou de penser, j'étais dans la salle de jeu des enfants. Là, comme... Mais tu sais, on a commencé le jour 1 avec du vidéo, communication, puis le client, puis on a continué, puis ça fait du bien de se revoir en personne, puis j'espère que ça l'aide à garder la confiance des clients. Fait qu'on est super heureux, même dans un marché baissier, d'être toujours premier dans l'industrie, puis on continue, c'est un grinding business, puis ça n'arrête pas, puis justement, je redescends à Montréal, fait qu'on va faire plein d'appels, puis parler aux analystes, puis ça continue.
Hugo Lavallée, merci pour ton temps.
Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidelity. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au Dialogue Fidelity sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix et, si le contenu vous plaît, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour obtenir des renseignements sur les prochaines web-émissions en direct, visitez fidelity.ca et suivez Fidelity Canada sur Twitter. Merci encore et au revoir!